Achado boa. Alors, bon, on va commencer à chaîner, mais il y a quand même quelque chose sur le début. Alors, je vais vous dire à mon cher Abbé, je t'envoie chez Paro, et j'ai alourdi son cœur et celui de ses serviteurs, pour que je puisse manifester, montrer tous mes signes au sein du peuple égyptien. Ça, c'est pour l'Égypte. Il y a une démonstration de la toute-puissance d'Hachem pour l'Égypte. Mais en fait, ce qui est peut-être même plus important, oui, bonsoir. Bonsoir. Ce qui est même plus important, c'est en fait que pour Israël, il y a aussi une leçon en fait, et plus qu'une leçon. Le pasouk dit dans le pasouk Bet, le deuxième pasouk qui dit Ulman te saper bozne vincha en bincha et asher itzalalti bemitzrayim ve'et ototai asher samtivam vidatem ki ani Hashem. Les signes, les miracles qu'Hachem manifeste en Égypte, c'est un peu. C'est pas du tout présenté comme on présente d'ordinaire le récit des miracles. Il s'est passé quelque chose, et puis on nous donne la mitzvah de raconter ce qui s'est passé. Si quelqu'un il a eu un nes, par exemple. Il y a une mitzvah, si quelqu'un a eu un miracle, il a une mitzvah de raconter son miracle. Mais le récit suit le miracle. Ici, la Torah dit autrement. Il dit, les miracles, ils ne sont pas là pour eux-mêmes. En fait, le but de l'exercice, c'est le récit. Le man saper beozne bincha ubinu. Ce qui est important, c'est le récit qu'on va en faire. Le récit que tu vas en faire à ton enfant, à ton petit-enfant, tu vas lui raconter comme je me suis moqué de l'Égypte, tu vas lui raconter tous les signes de ma puissance que j'ai manifesté en Égypte. Vidatem, et ainsi vous saurez que qui ani Hashem, que je. Ani Hashem, vous vous souvenez, on a dit qui Ani Hashem, chaque fois ça veut dire que je suis fiable, on peut me faire confiance. C'est-à-dire je sanctionne positivement ou négativement en fonction de la conduite des hommes, on peut me faire confiance. Vous saurez qu'on peut me faire confiance. Donc c'est les éléments constitutifs on construit la confiance en Hashem du clan d'Israël par le récit. Et donc ce n'est pas parce que quelque chose s'est passé, on le raconte, ce n'est pas les anciens combattants qui racontent leur guerre. À l'inverse, la guerre a eu lieu pour qu'on puisse la raconter. N'est-ce pas ? Ce qui s'est passé en Égypte est secondaire par rapport au récit. On pourrait presque dire que, bon, si ce n'était la leçon qui doit être donnée à l'Égypte, mais du point de vue des Bnei Israël, imaginez qu'on ait pu faire en sorte que les Bnei Israël soient victime d'une hallucination collective, et qu'il se raconte ce récit-là, dans toute la suite de l'histoire, ben ça suffit. Simplement, comme on ne veut pas que ça soit mensonger, Hachem ne voulait pas que ce soit un mensonge, alors il l'a fait, effectivement, ces choses-là. Mais l'essentiel n'est pas, pour les Bnei Israël, l'essentiel n'est pas ce qui s'est manifesté. Ce qui est fondamental, c'est le récit qu'on va en faire. Le chiboud, il est bon. Le chiboud, il a deux fonctions parce que il faut que les. On va en faire le récit, bien sûr, mais aussi il fallait que les Bnei Israël soient réduits à une situation où ils ne peuvent absolument pas se prendre en charge pour qu'Hachem les prenne en charge, pour que ça fonctionne comme une matrice. Comme un enfant dans le ventre de sa mère, quoi, qui ne peut pas du tout se débrouiller tout seul, qui a besoin d'être pris en charge par la mère. Ici, les bénis Israël devaient être pris en charge par Hachem parce que c'est comme ça que se construit la confiance en Hachem, la Emouna. Alors, Hachem a dit à Moshe Rabbeinu, tu vas aller chez Paro et tu vas lui annoncer que, bon, Ad matai me anta la'anot mi panai, jusqu'à quand est-ce que tu vas refuser de faire ce que je te demande de faire? Je te demande de Shalach Ami vi Avduni. Renvoie à mon peuple qu'il me serve. Et si tu refuses, alors j'amènerai les sauterelles dans les limites de ton pays. Et ça va couvrir complètement le pays, etc. Et les sauterelles vont bouffer tout ce qui n'a pas été haché, menu par la grêle, etc. Vous n'aurez plus rien du tout. Et puis, elles vont entrer dans tes maisons, dans les maisons de tes serviteurs, dans toutes les maisons égyptiennes. Ni tes ancêtres, ni les ancêtres de tes ancêtres n'ont jamais vu, depuis qu'ils sont sur la terre, ils n'ont jamais vu un truc pareil. Et Moshe a fait cette annonce à Paro, et il a tourné le dos, et il est parti. Alors les serviteurs de Paro, les sages qui entourent Paro, lui ont dit, mais jusqu'à quand tu vas tolérer est-ce qu'on va devoir avoir cette situation absolument insupportable? Renvoie ces gens, qu'ils aillent servir leur Dieu. Est-ce que tu n'as pas compris que l'Égypte est perdue? Parce que ça fait longtemps que les Khartoumim, les magiciens et tout, ont compris que ce qui se jouait là, ce n'était pas de la magie. Mais Paro, il ne veut pas l'entendre. Alors, on a rappelé Moshe et Aaron, qui avaient donc quitté le palais, on leur a dit de revenir, et Paro leur a dit, allez servir votre Hachem, votre Dieu. Qui est-ce qui y va? Mi va mi aulchim. Alors Moshe lui a dit, on y va tous. Nos enfants, nos ancêtres, tout le monde, nos fils, nos filles, nos troupeaux de petits et de gros bétail. Parce que c'est une fête pour Hachem, pour nous. Alors, Paro dit, bon alors, ok, ça sera comme vous dites, mais regardez, Re'u ki ra'a neged pnechem. Regardez, ra'a neged pnechem. Rashi dit, ketargumo, qu'est-ce que dit le Runkeles ici? Il dit, are bisha de atun svirin. Le Mevad. C'est une mauvaise chose que ce que vous voulez faire là. C'est pas bien. Ça m'a pas marché. Ça va se retourner contre vous. Mais Rashi ramène Midrash Agada, Shamati, dit Rashi, Kochav echad yesh sheshmo Ra'a. Il y a une étoile ou une planète qui s'appelle Ra'a. Et Amar Lahem Paro, Roe Ani Bit Sagninut Sheli, Oto Likratchem Bamidbar. Je vois par l'astrologie, je vois que cette étoile, cette planète, vient à votre rencontre dans le désert. Vehu Siman, et cette planète, cette étoile, c'est Siman Dam Vehariga. Elle est porteuse de sang et de meurtre. Donc en fait, Paro leur dit, vous allez au-devant d'un échec total parce que vous avez la mort à l'horizon. Et Mon cher Rachid rapporte que quand les Bnei Israël ont fait le veau d'or, et que la Kadosh Baruch Hu a voulu détruire le clan Israël, alors dans la prière que Moshe a faite pour essayer de sauver les Bnei Israël, il a dit « Lama yomru Mitzrayim lemor bera'a otsiyam zushi amar lahem ru kira'o kira'a neged pnechem » Moshe Rabbeinu, qui utilise toutes les ficelles pour sauver le clan Israël, il a dit à Akadosh Baruch Hu, il lui a dit, tu vas détruire le clan Israël. Alors les Égyptiens vont dire, mais Paro leur avait dit qu'ils avaient la mort à l'horizon. Donc quelque part, tu vas donner raison à Paro en tuant les Bnei Israël. Tu vas donner raison à Paro, tu vas donner raison à l'astrologie, etc. Immédiatement, Akadosh Baruch Hu va inachem Hashem à la Ra'a. Donc Hashem a changé d'avis sur, si on peut parler comme ça, bien sûr, al-hara'a, justement, c'est le même mot, sur le mal, mais c'est intentionnel. Il a pris comme mot voulant dire le mal, le ra, ça veut dire le mal, mais c'est aussi le nom de la planète en question, cette planète du sang, de sang. Ve'afar et Adam, alors, ici, il se passe quelque chose de très important. Donc, beaucoup a changé au sujet du Ra, ve'afar et Adam, le Dam Mila, Shemal Yoshua, Otam, ve'zehu sheneemar, Hayom galoti et cherpat Mitzrayim, me'alechem, shayu omrim lachem dam anuroim alechem bamidbar. Ce qui s'est passé, c'est que il y avait effectivement du sang à l'horizon. Seulement Hachem a changé ce sang en sang de Mila, le sang de la circoncision. Que à l'entrée en Eretz Israël, Yoshua a fait la Mila de tous les Bnei Israël. Et Hachem a dit à ce moment-là, voilà, aujourd'hui, avec cette Mila, j'ai enlevé ce qu'il y avait sur vous, qui était justement cette menace égyptienne, qui, en fait, disait que vous alliez vers la mort. Et là, on voit ici cette fameuse leçon qu'on rapporte au nom du Gaon de Vilna, que quand on naît avec un certain mazal. Quand on naît, à la naissance, on a un certain déterminisme. Alors, ce n'est pas un déterminisme total, bien sûr. Mais, comme dit le Gaon, si par exemple, pour prendre ce même exemple-là, si quelqu'un naît avec un mazal ma'adim, quelqu'un naît avec un mazal rouge, alors, sa vie, elle se déroule obligatoirement dans le cadre de ce mazal rouge. Dans le cadre de ce mazal, il y a tout l'éventail des possibilités. C'est-à-dire que quelqu'un qui est dans ce mazal-là, il peut devenir bandit, qui verse le sang des gens, il peut devenir boucher, il peut devenir chirurgien, il peut devenir chochette, il peut devenir mohel. Il y a tous les usages du sang. Mais il aura à se confronter à quelque chose de cet ordre-là. C'est ça sa détermination. Bon, si vous voulez, c'est pas plus déterminant que le fait d'être petit ou grand ou de vivre dans ce pays ou dans un autre à cette époque ou à une autre, où effectivement, si on est petit ou si on est grand, il y a des choses qui sont faisables, des choses qui ne sont pas faisables. Si on vit à un certain siècle, on vit dans les conditions de ce siècle-là, etc. Si on vit dans un certain pays, donc il y a un certain déterminisme. Et donc c'est la même chose ici. On voit que même à Kadosh Baruch Hu, en fait, il n'a pas dit, puisqu'il y a ce Ra'a là, moi je fais autre chose. On n'en tient pas compte. Il en tient compte. Mais il le transforme en Dame Mila. Et c'est ça qu'on apprend, en fait, que, en réalité, pour sortir de Mitzrayim, il fallait deux conditions. Une condition qui était la Mila, et la deuxième condition, c'est le Korban Pessah. Il fallait faire le Korban Pessah et le manger. Mais pour le manger, il fallait avoir fait la Mila. Donc il y a une Mila qui est faite au début, enfin qui est faite en Égypte encore. C'est cette Mila, c'est de cette Mila qu'on parle quand on dit que le Rambam dit que les Bnei Israël, au moment de Matan Torah, ils ont subi, ils ont vécu un processus de conversion, de Guéroute. Il y a eu la Mila, c'est la Mila ici que Moshe Rabbeinu leur a faite en Mitzrayim, et la Tvila, marqué dans le désert qu'ils ont fait Tvila, ils sont purifiés, et normalement il y a un guerre, il doit aussi apporter un korban. Bon, c'est pas Me'akev, ça veut dire ça n'empêche pas la Guéroute d'être valable, mais ça veut dire les Guérim, quand le Beit HaMikdash sera reconstruit, devront apporter un korban. Et les Bnei Israël, ils ont apporté un korban, c'est marqué jusqu'avant Matan Torah, quand Moshe Rabbeinu a Vaishlach et Nahare Bnei Israël, ils sont allés faire des korbanot. Donc les Bnei Israël, effectivement, ils ont tous passé un processus de Guéroute, de conversion, et le Rambam dit, et désormais, quand quelqu'un voudra entrer dans le clan Israël, il passera par ce même processus de conversion, de Mila et Tvila et Korban, mais le Korban, quand... Donc ça veut dire que nous sommes, initialement, nous sommes tous des convertis. C'est-à-dire le fait d'être descendant d'Abraham, Yitzhak et Yaakov, le fait d'avoir passé en Égypte, ça, c'était pas suffisant. Pour recevoir la Torah, il fallait une conversion, en bonne et due forme. Et il y a une conversion de la totalité du clan Israël à ce moment-là. Parce qu'on a le clan Israël en tant que tel, il a accepté une fois pour toutes les temps. Oui,
mais pour un guerre, c'est très bien que c'est
un guerre. S'il est Khoser le Soura, bon, ce dîne-là, il n'existe pas. Ce dîne-là, aujourd'hui, enfin d'abord, c'est pas vrai. Aujourd'hui, si quelqu'un est Khoser le Soura tout de suite, il perd son clan. Seulement, le problème, c'est qu'on n'est pas sûr. C'est très difficile, c'est à la fois difficile parce que tu n'es pas sûr qu'il y a. Au moment de la Tvila, si tout à coup il a été maharer, que oui, je veux faire les choses, même si tout de suite après il ne les fait pas, il change d'avis, la Tvila elle est bonne et donc la conversion elle est bonne. Donc c'est un juif qui est mal tourné tout de suite. Alors il y a des problèmes, est-ce qu'on considère qu'il est Khazar le Soura, est-ce qu'il est revenu à sa pratique antérieure, etc. Bon, c'est déjà la route difficile. Mais il y a quelque chose comme ça. Alors, on voit très bien que on a pris ce que Paro disait, c'est-à-dire, quelque part, il y a un problème avec le sang. Seulement, au lieu que ce soit un sang de mort, on a transformé ça en un sang de vie. Le sang de vie, il est Dame Mila, c'est du sang de vie. Et le Dame du Korban Pessah, il a servi à badigeonner les poteaux et les linteaux des maisons des Bnei Israël, pour que les Bnei Israël voient que la raison pour laquelle les enfants des Bnei Israël ne sont pas morts, c'est parce qu'ils ont fait la mitzvah qu'Hachem leur avait ordonné, comme un Pessah, et de badigeonner les choses. Ce n'est pas pour qu'Hachem voit les maisons. Hachem regarde son machin, c'est... Ah oui, ici il y a du rouge. Là. Ici on ne frappe pas. Alors, c'était à l'intérieur des poteaux, ce n'était pas à l'extérieur. C'est pour que nous voyions. Mais on ne peut pas faire autrement que d'en tenir compte. Ça fait partie des... Donc, on peut aussi dire, visiblement, le clan Israël, il a globalement semaine du Dham. Puisqu'il a fallu, on l'a résolu en Mitzrayim, pour sortir de Mitzrayim, il a fallu transformer ce Dham en Dham qui n'est plus en un sang de vie plutôt qu'un sang de mort. C'est ce qu'on dit quand on fait la Mila d'un enfant. Après la Mila, on a l'habitude, on met une goutte de yain dans la bouche et on dit un pasouk dans Yechezkel qui dit Bedamai Chayi. On dit deux fois Bedamai Chayi. Avec tes sangs, vie. C'est-à-dire, pour bien montrer, c'est un sang de vie qu'on a versé là. C'est pas un sang de mort. C'est pas que. Bon, alors c'est. Tout ça, c'est un grand problème parce que. Certains disent que dans la Mila, il y a une dimension de Korban. On apporte quelque chose qu'on donne à Hachem. Mais il faut dire aussi que le sang versé dans le cadre du Korban, c'est aussi un sang de vie, c'est pas un sang de mort. Alors on fait la Shrita, et l'animal va mourir, mais ce sang-là représente un sang de vie, puisque, vous savez bien, dans un Korban, il y a deux parties, oui. Il y a une partie qui est le travail sur le sang, et une autre partie qui est le travail sur la chair de l'animal. Le travail sur le sang, c'est l'aspersion on asperge des gouttelettes de sang sur le misbéach ou sur le parochet, selon les moments, etc. Donc, cette aspersion du sang, c'est ça qui apporte la kapara qui est attachée à un korban. Le pardon qui est attaché, le lavage de la faute qui est attaché à un korban, il vient de ce zrikat adam, de cette aspersion du sang. Après, il y a un travail sur la chair de l'animal, sur la viande. Ce qu'on met sur l'autel, ce n'est pas un animal, c'est de la viande. On ne met pas les animaux à brûler sur le misbéach. On met de la viande. Alors, ou bien tout est consumé, ça c'est dans une ola, ou alors c'est partiellement consumé et partiellement consommé. Bon, c'est une partie de la viande, très peu, est sur le misbéach brûlé. Et le reste est mangé. Alors certains korbanot sont mangés par les kohanim, et d'autres sont mangés par les propriétaires du korban. Et donc manger cette viande-là, c'est faire le même travail que le misbéach, c'est-à-dire c'est une opération très élevée. Donc, tu es en train de faire la même chose que ce que fait le misbéach, que ce que fait l'autel. Ta consommation, c'est comme la consommation de la viande sur le misbéach. Mais le sang sert à l'accapara. Et on ne peut pas manger tant qu'on n'a pas obtenu la capara par l'aspersion du sang. Donc c'est un sang de vie. Même si la bête, elle en meurt, de la shrita, mais on recueille ce sang et on asperge, et ça devient un sang de vie, puisque c'est ce qui nous permet de sortir de la avera. La avera, c'est lié à la mort. Donc on répare, on lave la avera par l'aspersion. Pourquoi il y a des
contraintes sur le sang?
Qu'est-ce que tu appelles contrainte?
Pourquoi il fallait prendre en compte la contrainte qu'il y avait sur le sang à propos de cette étoile?
Ah, pourquoi est-ce que ça fait partie des déterminations du monde, semble-t-il?
Alors, une deuxième question, et là c'est juste une hypothèse, c'est est-ce que c'était pas juste stratégique de dire à Pharaon qu'on nous fait dire qu'on y va tous?
Non, il a dit, on ne sait pas. Il ne dit pas qu'on va sacrifier. Chag l'Hachem, c'est une fête pour Hachem.
Mais à un moment donné, il dit, on
veut
aller sacrifier
pour nous. Oui, mais pas ici. Ici, il dit seulement Chag l'Hachem. Oui, c'est sûr qu'on lui a dit qu'on partait, et qu'on partait pour 3 jours, etc. Et c'est tout un problème pour qu'on lui racontait les salades. Parce qu'il aurait, même ça, il ne voulait pas laisser faire. On n'a pas vécu de ça.
D'accord, mais est-ce qu'après cette histoire de sacrifice n'a pas été vraiment prise au sérieux et il a été contraint malgré tout justement par la faute du Bodot qui montre que ça a été un petit peu pris trop au sérieux et du coup ils n'ont pas compris que c'était juste pour partir avec le détail.
Non, je crois pas. Ça, je crois que ça n'a rien à voir. Donc il lui dit, vous voyez, c'est pas bien, alors que que les hommes y aillent, qu'ils fassent la Ifdou et Hachem, ça c'est ce que vous demandez, et il les a chassés, il a rechassé Moshe et Aaron. Alors Hachem a donné l'ordre à Moshe Rabbeinu, l'été yadcha l'eretz Mitzrayim ba'arbe, c'est-à-dire étends ta main au-dessus de l'Égypte avec littéralement ba'arbe. On connaît la traduit et viendra les sauterelles, ou la sauterelle, enfin la plaie de la mine sauterelle. Orachaim, il dit, sur Barbe, il dit, Oulai, alors il essaie de savoir, Orachaim, comment est-ce que Moshe a fait pour amener les sauterelles. Il dit, peut-être que Moshe Rabbeinu avait attaché une sauterelle à son bâton, ou bien peut-être que quand il a étendu sa main, il a prononcé le mot Arbé, donc il a en quelque sorte chargé sa main du sens d'amener les sauterelles. Évidemment, je ne sais pas pourquoi il pense qu'il faut que Moshe Rabbeinu fasse quelque chose qui soit marqué Arbé pour que ça marche. Je ne sais pas pourquoi il pense comme ça. Ibn Ezra, il a vu la chose, enfin il était bien avant le Rahim, mais il a vu la chose et il dit, il ramène d'un certain Moshe à Cohen, Kitam ba'arbe, parce que le problème qu'ils ont, c'est pour qu'est-ce que ça veut dire ba'arbe. L'été yatra al eretz mitzraim ba'arbe. Tends ta main sur le pays d'Égypte, ba'arbe, dans la sauterelle, dans les sauterelles, peu importe, mais. On les ramène de ce Rav Moshe Cohen, qui tam ba'arbe, sharbe sham ba'mate. Lui, il pense aussi avant lui, il ramène ce Rav Moshe à Cohen, que probablement il y avait sur le maté, il y avait une sauterelle. Mais Ibn Ezra dit, ve'en zenachon, il dit, c'est pas juste, c'est pas vrai. Akatam ba'arbe, ça veut dire ba'avour sheyavo arbe, pour que viennent les sauterelles. Sur le fait que Paro a dit au Bnei Israël qu'il y a cette planète rouge, ce sang là à l'horizon. Le Ramban dit Derech Hapshat, de où kira neget nechem omedet ou krova lavo alechem. Sachez que donc ce ra'a, ce mal, ce sang est en train d'arriver sur vous, c'est très proche de vous, et ça vient Meiti. Il dit c'est moi qui vous envoie ça. Paro. Qui egmol etchem ra'a. Parce que je vous ferai du mal. Je vous veux du mal, je vous ferai du mal. Biroti she'atem chafetzim livroir. Quand je verrai que, en fait, vous voulez fuir, je vous ferai du mal. Donc il s'attribue la puissance de faire en sorte que ce ra'a ne vienne pas. Il est là. Quand on lit simplement le récit que Rashi fait de voilà, il y a une planète là, et il se trouve que c'est pas la on dirait aujourd'hui c'est une mauvaise conjonction des planètes, des astres. Ne partez pas sous cet auspice là, sous cette conjonction là, parce qu'elle a dans votre thème astral maintenant vous avez la mort. Mais lui, le Ramban, il ramène que Paro veut dire, c'est moi qui vous... Ani gomel, egmol etrem ra'a, je vous ferai du mal. Comme s'il était lui le maître de cette planète-là. Je ne crois pas que ce soit cette planète-là. Et ce que Hachem lui a dit, c'est la nouveauté. C'est-à-dire qu'il vit dans un pays, avant lui, il vit dans un pays où tout est gouverné par le thème astral. Et donc Avraham Avinu, pour lui aussi, on regarde son thème astral et on agit en fonction de cela. Et donc comme Avraham Avinu, il voit que dans son thème astral, il ne peut pas avoir d'enfant, bon, il n'aurait pas d'enfant. Donc... S'il n'a pas d'enfant, il est exclu qu'il soit à l'origine de tout un peuple. Il n'aura même pas un premier enfant, donc ça ne commencera pas. Donc à la limite, il ne peut rien commencer. Alors Hachem lui dit, Tsemi, stagnir shelcha. Sors de ton déterminisme astral. Tu peux sortir. Il y a un moyen de ne... On n'est pas obligé d'y rester. Tu peux t'en sortir. Mais pour ça, il faut, en quelque sorte, se choisir un autre type de détermination. Ça va être la Torah, en fait. Alors, il lui annonce que, en fait, cette invasion de sauterelles, c'est quelque chose qui le fanav lo yachen arbe kamo ve'achav lo yeket. C'est un phénomène tout à fait unique. Il n'y en a jamais eu comme ça et il n'y en aura jamais plus. Alors Rashi ramène qu'on a un problème parce que dans le Navi Yoel c'est marqué qu'il y a une invasion de sauterelles plus grande que celle qu'il y a eu à l'époque de Moshe Rabbeinu. Alors Rashi rapporte que en fait ce qui se passe c'est que au temps de Yoel, il y avait toutes sortes de sauterelles. Des sauterelles de toutes sortes d'espèces. Ce qu'il y a de singulier chez Moshe Rabbeinu, enfin à l'époque de Moshe Rabbeinu, c'est qu'il y a une seule espèce de sauterelle. C'est pour ça que c'est au singulier. Il y a une seule espèce de sauterelle et il n'y en a jamais eu autant d'une seule espèce. Ce qu'on a voulu montrer, justement, c'est toujours cette puissance d'Hachem qui peut faire que, avec une seule espèce, que tout l'être, on n'est pas obligé d'avoir recours à toutes les sortes d'espèces de sauterelles pour bouffer tout ce qui est resté à bouffer sur le pays d'Égypte. Mais crois-moi, Paro et les gens, ils étaient des experts. Toi et moi, on n'est peut-être pas des experts, enfin, toi je ne sais pas, mais moi je ne suis pas un expert de sauterelles. Mais les juifs du Yémen, etc., qui mangeaient des sauterelles, je crois au Maroc aussi, on mangeait certaines sauterelles. Il y a une espèce de sauterelle qui est cachère, connue comme cachère. Et donc, ils étaient des experts, ils savaient. Nous, on ne sait rien, je veux dire. Nous, on est la génération où quand on demande à un gosse de dessiner un poisson, il dessine un cube de... Donc effectivement, c'était absolument terrible. C'était tellement terrible que dans le pasouk Tetzain, c'est marqué « Vaimaher par o likro le Moshe ou le Aaron ». Paro s'est dépêché d'appeler Moshe et Aaron. Vayomer, et voilà, il dit, c'est une hypocrisie. Khatati, Hachem, Elokechem, Velachem. J'ai fauté à l'égard d'Hachem, votre Dieu, et à votre égard. Ve'ata, et maintenant, sa na chatati achapam. Et maintenant, pardonnez ma faute. Si. Encore une fois. Va'atiru l'Hachem elokechem. Priez Hachem, votre Dieu. Ve'yaser me'alai rak et amavet azeh. Et qui l'enlève de moi littéralement. Alors qu'il me débarrasse, seulement il me débarrasse de cette mort-là. Vayetse, Moshe et Aaron sont sortis de Paro, de chez Paro. Vayetar el Hachem. Et ils ont prié Hachem. Donc on voit Paro. On pourrait dire, voilà, ça y est, il a fait tchouva. Je reconnais que j'ai fauté, prié, il reconnaît la puissance de la tfila. Et donc, ils ont prié, il n'est plus resté une seule sauterelle dans le pays. Mais va yechazek Hashem et lev paro velo shilach et ben Israël. La Torah a fait l'économie de la discussion entre Paro et Moshe Rabbeinu. Bon, de toute manière, Hachem a fortifié le cœur de Paro et il n'a pas renvoyé les Bnei Israël. Oui. À ce moment-là, il est un pion dans la démonstration d'Hachem. Ça veut dire qu'à titre personnel, il n'aggrave pas son cas maintenant. Il est déjà mort, mais on a besoin de lui pour faire le mort. Ça n'a aucune importance, parce que maintenant, s'il dit quelque chose, c'est parce que ça fait tellement mal qu'il m'enlève, débarrasse de cette mort. Il le vit comme une mort. Il est en train de me tuer, quoi. Ces sauterelles me tuent. Alors Hachem donne l'ordre à Moshe Rabbeinu d'envoyer les ténèbres sur Mitzrayim. Ce que fait Moshe Rabbeinu. Et Yahvahi Choshech Afela Bechol Eretz Mitzrayim Shloshet Yamin. Et il y a des ténèbres absolues pendant 3 jours sur l'Égypte. Alors ce n'est pas seulement qui fait sombre, quoi, les nuits. C'est des ténèbres avec palpables. Loraou ish et achiv. Personne ne voyait son prochain. Velokamu ish mitachtav. C'était tellement épais que celui qui était assis ne pouvait pas se lever, celui qui était debout ne pouvait pas s'asseoir. Si on avait tendu le bras, on ne pouvait pas le ramener à soi. C'était comme s'il était prisonnier un peu. On a l'impression qui sont un peu comme ce qu'on voit, les gens qui sont pétrifiés, ceux qui ont été pétrifiés par la lave. Ils ne pouvaient pas bouger. Tels qu'ils étaient, terminés. Mais ils ne sont pas morts. Pour le Cholmé Israël, il y a or de Moshvotam. Pendant ces ténèbres, les Bnei Israël, sur le lieu de résidence, il y avait de la lumière. On y voyait clair. Alors, pendant ces 3 jours-là, il se passe quelque chose qui est très important pour les Bnei Israël. Rashi rapporte. Sur le pasuk Kavbet. Vayechafela, etc. Shloshet Yamim. Il y a eu ces ténèbres pendant 3 jours. Rosher Shel Ofel. les ténèbres de l'épaisseur. Shelo raouish et achiv gimel yami. Pendant trois jours, ils se sont pas vus l'un l'autre, les uns les autres. Veod shloshet yamim acherim chosher muchpal al ze. Shelo kamu ish mitachtav. Yoshev en yachol la'amod ve'omen yachol la'yeshev. Et donc, Rachid dit, il y a eu deux séries de trois jours. Il y a trois jours de ténèbres, où les gens ne se voyaient pas. Puis après, il y a trois jours de double ténèbres, en quelque sorte, qui est cette période pendant laquelle ils étaient quasiment pétrifiés, ils ne pouvaient pas bouger, etc. Mais l'ama evi aleim chosher. C'est la question, tout à coup, pourquoi ? Pourquoi les ténèbres ? Shayu b'Israël be'oto ador, parmi les Bnei Israël, dans cette génération, il y avait des Rechaim. Il y avait des gens mauvais. Velo ayu rotsim latzet. Et ils ne voulaient pas sortir d'Égypte. Umetu b'shloshet yemei ha'afela. Ils sont morts pendant ces trois jours de ténèbres. Kedei shelo yiru Mitzrayim b'mapalatam. Pour que les Égyptiens ne voient pas leur disparition. Veyomru afen lokin kamonu. Pour que les Égyptiens ne puissent pas dire, les Hébreux sont frappés comme nous. Ils meurent. Veod shechipsu Israël veraou et kelehem. Une deuxième chose, c'est que les Israël, pendant ce temps-là, eux, ils voyaient. Et donc, ils ont vu, ils ont examiné. Ils ont espionné dans toutes les maisons tout ce qu'il y avait. Et quand, par la suite, il y aura cet ordre d'Hachem d'emprunter aux Égyptiens de l'or, de l'argent, des kélim, des ustensiles, des instruments, etc. Et quand les Égyptiens diront « Ah ben, on n'a pas ça », alors les Bnei Israël pourront dire « Je l'ai vu chez toi, je sais où c'est ». Ça se trouve là-bas. Donc, ils ne pourront pas leur mentir. Shloshet yamim. Eux, ils avaient de la lumière, mais les Rechaim, ils sont traités comme les Égyptiens. Ah non ? Oui. Jonathan Ben Uziel, dans le Targum de Jonathan Ben Uziel, il dit les gens, un homme ne voyait pas son frère, il ne pouvait pas bouger pendant 3 jours, et sur le où l'Israël avait une aura, les Bnei Israël, ils avaient de la lumière, il lui dit le Mikbor Ishiye di Beneon. La lumière qu'ils avaient, c'était essentiellement pour enterrer les morts chez eux. Les Rechaim sont morts, ils ne sont pas morts de Rochef. Ils sont. Alors, lui, il dit que c'est pour ça qu'il y avait de la lumière, Yonatan Ben Uziel. Probablement que les Bnei Israël, cette purée de foi là, cette obscurité pour eux, elle était mortelle. C'était une obscurité mortelle au sens où les Égyptiens, ils n'en sont pas morts parce qu'on avait besoin que la démonstration n'était pas finie pour eux. Pour les Rechaïm, c'était terminé. Donc ça veut dire que en fait, ces rochers, c'est un rocher qu'on a mort. Quoi. Ils sont entrés dans la mort. Les Égyptiens, ils étaient presque morts. Et les Bnei Israël, qui étaient les Rechaïm, ils sont tout à fait morts. Simplement, c'est ça. Et les Bnei Israël, quand on dit le Chol Bnei Israël Aya Or, il y avait de la lumière. Alors lui, Yonatan Ben Uziel, il dit que c'était pour les enterrer. Et les autres disent que c'était pour aller voir ce qu'ils avaient caché, etc. Mais en fait, ceux qui étaient pris dans l'épaisseur du crochet, en fait, ils étaient pétrifiés littéralement, ils en mouraient. Ils en sont morts. Les Rechaïm en sont morts, directement, de cette épaisseur-là, de ce crochet. Parce que, en fait, ce qui se passe, c'est que ce qu'on décrit, c'est la sortie d'Égypte. Et eux, ils ne sortent pas. Ils ne veulent pas sortir, alors ils sont. Ils ne nous intéressent pas. C'est pas une punition. Ils ne sont pas punis par ça. Ils meurent, et ils meurent de telle sorte que les Égyptiens ne puissent pas dire que les Bnei Israël sont frappés aussi. D'autant qu'ils sont morts tellement nombreux, bien plus nombreux que ceux qui vont sortir, bien sûr. Eux, ils n'ont pas fait la Mila. Ils ont refusé, ils ne voulaient pas sortir. Ils ne voulaient pas sortir. Alors, bon, l'histoire va se faire sans toi. Donc ils disparaissent simplement parce qu'on n'a pas, ils n'ont pas de raison, on n'a pas de raison de s'occuper d'eux. Ils ne représentent rien. Parce que tout ce qui intéresse, c'est tout ce qui intéresse Hachem, si on veut parler comme ça, c'est le clan Israël qui va sortir d'Égypte. Tu ne veux pas sortir d'Égypte, alors tu restes en Égypte. Mais comme on ne peut pas te laisser, vous imaginez les manchettes des journaux, le Dieu des Juifs leur propose la liberté, il y a 80% qui disent non. De Gaulle, il est parti pour moins que ça. Je veux dire. C'est 80% vont dire non, c'est terrible.
Néanmoins, c'est difficile de voir clair, si je puis dire, faire un peu de mots. C'est-à-dire qu'on sait que là, les ministres, ils sont au
49, oui, d'accord.
Ils sont pas loin du bon, ils l'ont fait, mais alors qu'est-ce qui différenciait vraiment ces gens qui
c'est, les uns voulaient sortir, les autres pas. Ils ont cru en Moshé, ils ont cru en Moshé. Quand Moshé leur dit on va sortir, et finalement ils y croient.
Ah oui, quand même.
Les autres disent, nous on ne veut pas sortir, on est bien en Égypte. Alors j'ai dit, moi je ne peux pas laisser les 80% des Israël en Égypte.
Et ces deux-là qui vont casser...
Datan et Aviram, ceux-là, ils sont sortis, bon, c'est difficile de comprendre comment ils ont réussi à sortir ces deux-là. Ils ont dû s'accrocher comme les tiges sur les camions à Calais. Non, peut-être que ça vient de ce que c'est marqué Shloshet Yamim, au lieu de Shlosha Yamim. Et ils disent Shloshet Yamim. Rashi dit Shloshet Yamim, Shilush Shel Yamim, c'est-à-dire un triplet. Un triplet de jours. Comme on dit une septaine pour une semaine. Ici, Rashi dit, une troisaine. Et alors, peut-être que ça veut dire, puisqu'on parle de groupe de trois, une troisaine de jours en quelque sorte, alors il y en avait au moins deux, quoi, c'est une troisaine de jeûne. Sinon, on aurait dû dire trois jours. Qui dit ça?
Le
Mitzvah. Oui.
Il dit que la lumière, elle venait de l'enterrement des machines. De la simcha que ah. Je présentais pour Israël.
Iboud Roshaim Rina, oui.
Ces gens qui font du mal, ils leur ramènent dans une note, ils leur ramènent comme exemple justement la mort de Datan et Avira, qui est une simcha.
Ok. Vaikra paro el Moshe, vayomer lechu ivdu et Hashem. Alors Paro il appelle Moshe à ce moment-là, il lui dit ok, allez-y, allez servir Hashem avec vos petits et gros bétails et vos enfants aussi. Alors, Moshe Rabbeinu lui dit, mais Gamata titen biyadenu zvachim veolot. Vasinu l'Hashem elokeinu. Il dit, toi aussi tu nous donneras de quoi faire des korbanot. Et on va l'utiliser ça pour Hashem notre Dieu. Alors il dit, vous prendrez vos enfants, mais vous laissez vos troupeaux. Ratzonchem kalchem yutzag. Ça, ça reste ici. Alors il dit, non seulement on les prendra, mais même toi, tu vas nous en donner. Gamiknenu yelechimanu. Velotishayar pasa, kimimenu nikach, laavod et Hashem elokeinu, vanachnu lo neda, manaavod et Hashem adboenu shama. Il restera rien. On prend tout, parce qu'on ne sait pas ce qu'Hashem nous demandera. Jusqu'à ce qu'on soit là-bas, on ne le sait pas. Alors, Vaechazek Hashem et Lev Paro, Velo Aval et Shalcham. Il n'a pas voulu les envoyer. Alors, Paro lui a dit, il a dit à Moshe, il lui a dit, Lech Mealai. Maintenant, tu lâches-moi les baskets, en quelque sorte. Ishamer Lecha, mais fais bien attention. Fais très attention. Al Tosef Rot Panay. Surtout, ne te présente pas devant moi, ne viens plus me voir mon visage littéralement. Kibiyom rotra panay tamut. Parce que le jour où tu verras mon visage, tu mourras. C'est très étrange. Ibn Ezra dit, pourquoi il va mourir ? Parce que tu es Mored de Malchut, parce que tu te révoltes contre l'ordre du roi. Je t'ai dit que je veux plus te voir. Si tu te présentes devant moi, tu te révoltes contre l'ordre du roi, donc tu es passible de mort. On a du mal à comprendre comment ce bonhomme il peut s'imaginer un seul instant qu'il pourrait tuer mon cher Rabbeinu. Il a essayé de tuer mon cher Rabbeinu quand il est arrivé au palais. Mais bon, Hachem a protégé et ils n'ont jamais réussi à le tuer. Oh putain, tout à coup, il pourrait le tuer. Parce que mon cher Rabbeinu lui a dit Ken dibarta, t'as bien parlé. Lo sifodrot panecha, je ne verrai plus ton visage. Et le Ramban dit que, effectivement, quand après Amakat Bechorot, Paro il est allé chercher mon cher Aaron pour qu'il fasse cesser la plaie de la mort des premiers. Mais c'est marqué, il est allé jusque. Alors le Ramban dit peut-être qu'il est allé jusqu'à leur porte, la porte de leur maison, il a crié. Et il a crié, toujours, c'était, semble-t-il, encore Bar Kosher, c'était pendant la nuit. Makat Bechorot, c'est pendant la nuit. Il a crié pendant la nuit, il a dit allez, partez. Ou alors peut-être qu'il a envoyé des gens leur dire de partir. Mais il dit c'est aussi possible que quand Moshe lui a dit je ne verrai plus ton visage, il voulait dire. Je ne verrai plus ton visage dans ton palais. Je ne viendrai plus, moi, vers toi. C'est toi qui viendras chez moi. Jusqu'alors, je suis venu chez toi. Vous vous souvenez, à Kadosh Baruch Hu, il a donné l'ordre à Moshe et à Aaron de donner du kavod à Paro. Vous allez l'écraser, mais vous devez lui donner du kavod. Vous ne devez pas l'humilier, etc. Donc, ils sont chaque fois allés le voir. Maintenant, il dit, maintenant, ok, tu ne veux plus me voir, tu ne me verras plus, je ne viendrai plus chez toi. C'est toi qui viendras chez moi. Alors Hachem dit à Moshe, Od nega echad avi al paro, v'al mitzraim. Je vais envoyer encore une plaie contre Paro et sur Paro et sur l'Égypte. Et après ça, ishalach etrem mise, keshalcho kala garesh et garesh etrem mise. Maintenant, cette fois-ci, il vous chassera complètement. Mais maintenant, Daberna, parle s'il te plaît, Bozne Ha'am, aux oreilles du peuple. Vishalu ish me'et re'eu, visha me'et re'uta, klechesef et klezahav. Que les hommes empruntent. Alors, aux hommes et les femmes aux femmes, des ustensiles en or, en argent et en or. Et ensuite, Vaiten Hashem Naam, Beine Mitzrayim. Hashem va faire en sorte que le peuple trouve grâce aux yeux des Égyptiens. Et donc, ils ont prêté. Vegamaish Moshe Gadol Meod Beretz Mitzrayim. Beine Avdeparo, Beine Ha'am. Et même Moshe, en tant que personnage, il est très respecté, il est très grand à leurs yeux. aux yeux des, en Égypte, aux yeux des serviteurs de Pharaon et du peuple. Les gens savent la puissance de Moshe. Yomer Moshe, alors Moshe a dit, Koh amar Hashem, ainsi a parlé Hashem. Alors Rashi dit, quand est-ce qu'il a dit ça à Paro? Ben, quand il était encore devant lui, au moment de, avant que Paro le chasse. Koh amar Hashem. Kachatzot alayla ani yotze betor mitzrayim. Hachem a dit, à peu près à Chatzot, à minuit, à la moitié de la nuit, je sortirai en Égypte. Ou met kol bechor beretz mitzrayim. Et tous les premiers-nés d'Égypte, dans le pays d'Égypte, vont mourir. Mipror paro a yoshev al kiso, depuis le prince héritier, le premier-né. Ad Bechor Ashifra, jusqu'au premier-né de la servante, Asher Achar et Chaim, qui tourne la meule. Bechor Bechor Behema. Et tous les premiers-nés du monde, dans le monde animal. Vaïtat Sa'aka Gdola Bechor Eretz Mitzrayim. Il y aura un cri gigantesque, énorme, dans tout le pays d'Égypte. Asher Kamo Loni Yata ve Kamo Lotosif. Ça n'a jamais crié comme ça, ça ne criera jamais comme ça. Ou le chol bnei Israël, lo yecherat kelev le shono. Et au bnei Israël, un chien n'aboira pas contre eux. Le meish ve'ad behema, les hommes, les animaux, le man ted'un asher, Yafle Hashem ben Mitzrayim ou ben Israël. Pour que vous sachiez qu'Hashem a fait une différence entre l'Égypte et Israël. Je veux vous montrer la différence. C'est assez surprenant, en fait, que le texte dise ici, vous saurez que je fais une différence entre ce qu'on a vu maintenant. Ça fait déjà 9 makot qu'on voit que les Égyptiens sont frappés et les Israël ne le sont pas. Si on n'a pas compris qu'Hachem fait une différence, qu'est-ce qu'il y a de... Le man tedou Hachem yafle Hachem ben Mitzrayim ou ben Israël. Bien sûr, on le sait, mais maintenant...
C'est qui le juif ?
Pardon ?
Quand le texte dit « vous reconnaissez », c'est qui le
juif ? L'Ebné Israël. L'Ebné Israël sache.
Bon, alors, ça, c'est...
Mais on le sait, ça fait 9 plaies que Hachem fait une différence. Viardu kol avadecha ele elai. Alors, de ce verset-là, on a l'impression que le Ma'an Tedoun, ce n'est pas l'Ebné Israël. Le Ma'an Tedoun, c'est que l'Égypte sache. C'est pour que les Égyptiens sachent que je fais une différence. L'Ebné Israël, ils l'ont déjà vu. Mais l'Ebné, on veut, il faut que les Égyptiens le sentent littéralement. Puisque dans la suite... Viardou kol avadecha, c'est les avadim de Paro. Donc on voit qu'il lui parle, semble-t-il, à Paro. Donc le Ma'an Tedoun, c'est afin que vous, les Égyptiens, vous sachiez que Hachem fait une différence entre l'Égypte et l'Ebné Israël. Et tous tes serviteurs viendront vers moi, vishtach vouli, et ils se prosterneront à moi, les morts, en disant Tse ata, sors, toi. Et tout le peuple que tu diriges, donc, et ensuite je sortirai, et après moi, après ça, je sortirai, et il est sorti de devant Paro en colère. Donc Moshe lui a parlé en colère. Parce que comme, justement, parce que tu as, jusqu'à maintenant, tu as toujours refusé, etc. Et tu crois faire le malin en disant que je ne pourrais plus voir te voir, etc. Ok. Rachid dit qu'il est en colère parce que Paro n'a pas de lui dire « tu ne me verras plus », comme s'il était en position de dire quoi que ce soit. Non. Haron Af, c'est une expression. Af, c'est le nez. C'est comme si la colère. Haron Af, c'est la colère, mais c'est la. C'est une expression, ça va, c'est un tout. Haron Af, c'est une expression. Il a écrasé Paro.
Oui, enfin, le kavod.
Oui, il lui a donné le kavod. On lui a donné tant de kavod qu'on pouvait. C'est-à-dire, il lui parle. Lui, non seulement. Il est venu chez lui. Il s'est déplacé, mon cher. Chaque fois qu'il y a eu une plaie, il aurait pu dire à Paro : tu veux que j'arrête ? Viens me le demander. Qui est demandeur ? C'est toi, Paro. On vient le demander. Ok, je viens. Je te donne le kavod, je viens chez toi. Je viens, moi, au palais. Alors que c'est toi qui es demandeur. Il lui annonce que tous les serviteurs vont se prosterner devant lui. Et Rashi dit, cette expression, « Chalak kavod le malchut » Là, en disant ça, il lui donne du kavod. Parce que finalement, Yarat Paro Be'atzmo et Lav Balaila. Parce que finalement, c'est Paro lui-même qui est venu supplier. Et pas les serviteurs. Donc, il aurait pu lui dire Ve'yarat ta elai vishtach vitali. Et tu viendras vers moi et tu te prosterneras devant moi. Il n'a pas dit, tes serviteurs viendront, ils se prosterneront. C'est le kavod. Vayomer Hashem el Moshe, lo ishma alechem paro. Paro vous écoutera encore pas. Leman Revot Moftai Beeretz Mitzrayim. Pour que je puisse augmenter mes moftim, mes miracles dans le pays d'Égypte. Et Rashi dit, qu'est-ce que c'est Moftai? Il dit, Shnaim Moftai, c'est au pluriel, donc il y en aurait déjà eu deux. Il dit Rabot Moftai, c'est plus que deux, c'est au moins trois. Pour que je multiplie mes Moftim. Alors Rashi dit, il y en a trois, il y a Makat Bechorot, Kriat Yamsouf, ou le Naher et Mitzrayim, c'est-à-dire en fait, c'est ruiner complètement l'Égypte. Ils vont vider l'Égypte de tout. Où Moshe et Aaron assou et kol moftim aile, lifne paro. Et Moshe et Aaron ont fait en fait c'est on répète ils ont fait tout ce qu'ils ont fait là dans les différentes plaies, ce qu'ils lui ont montré à paro, la puissance. Vaychazek Hashem et lev paro velo shilach et bnei Israël me'artzo, il a pas renvoyé les bnei Israël de son pays. Et à ce moment-là, on commence. Vayomer Hashem el Moshe vel Aaron, Beretz Mitzrayim lemor, Achodesh azel lachem, Rosh Chodashim, Rishonu lachem. C'est là, dit Rashi, au début de Bereshit. La Torah, elle aurait dû commencer ici. C'est-à-dire que tout ce qu'on a lu jusqu'à présent, c'est de la préhistoire, en fait. L'histoire, elle commence maintenant. Voilà, on va rester là. Alors il y a un Melave Malka dans ce Shabbat. À part ça, je vous rappelle que on ramasse de l'argent pour une Arnasat Kala. Il y aura des serfas. Je suis arrangé pour avoir des serfas si vous pouvez participer.